Et nous serons dans l'évangile de Marc ce matin. Marc chapitre 6. Nous sommes en plein ministère de Jésus. Et même si c'était un contexte bien spécifique, Jésus qui fait quelque chose, qui d'ailleurs fait un miracle. Ici, il y a presque 2000 ans, avec des choses spécifiques pour son époque, il y a bien sûr des vérités pour nous aujourd'hui. Et c'est ça le plus important, au lieu de voir simplement le côté historique, ceci s'est réellement passé, mais surtout de voir pour nous les vérités que nous pouvons en tirer. J'espère que dans les prochaines 30-40 minutes, vous allez voir cela. Alors, Marc chapitre 6, en fait, c'est un passage qui est très très bien connu. Quand je vous l'annoncerai, nous serons à partir de verset 30 aujourd'hui, mais en fait surtout ça va être les versets 33 jusqu'au verset 44, parce que nous allons parler de la multiplication des pains, des poissons, la première fois. Jésus fera ceci une deuxième fois un peu plus tard, quand il va nourrir 4000 personnes, mais ici en fait c'est 5000 que Jésus va nourrir. Et parce que nous connaissons tellement bien ce passage, parce que nous avons déjà entendu des messages, parce que ceci est tellement lointain dans le passé, parce que c'est un miracle, parfois on se dit, mais quelle est l'incidence sur ma vie aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, contrairement à Jésus, nous ne faisons pas de miracle, n'est-ce pas? On ne peut pas aller à quelqu'un et dire, juste comme ça, ayez tous. Tout dont vous avez besoin, soyez guéris. On ne peut pas aller dans les hôpitaux, imposer les mains et puis les gens seraient guéris. Ce serait formidable, n'est-ce pas? Mais nous savons que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et même pour les disciples, Jésus, même s'il a fait beaucoup de choses à travers eux, les disciples, les apôtres à l'époque, Jésus voulait que eux, ils aillent au-delà du spectaculaire. Il voulait leur montrer des choses encore plus profondes. Alors, à partir du verset 30, regardez ceci parce que c'est vraiment quelque chose de très très important pour nous. Marc chapitre 6, verset 30 déjà. Les apôtres, donc les 12, et souvenons-nous, Judas faisait partie de ce groupe. Donc Judas a fait des choses dont nous allons parler ici. Donc, celui qui allait trahir par la suite, mais bon, voilà, c'est bien de s'en souvenir. Alors, les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors, Jésus leur avait envoyé prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils avaient guéri, ils avaient chassé des mauvais esprits. Ils avaient fait un ensemble de miracles et les disciples, les apôtres notamment ici, reviennent tout contents. Ils se disent, mais Jésus, regardez, nous avons le pouvoir donné par toi, bien sûr, mais nous avons la capacité de faire toutes ces choses. N'est-ce pas merveilleux? Et ça l'est. Il ne faut pas minimiser l'impact du ministère qu'avaient les apôtres ici. Mais le verset 31, c'est assez curieux. N'est-ce pas? Vous avez certainement déjà lu cela, mais rappelons-nous, les apôtres reviennent tout contents, sont émerveillés. Gloire à Dieu! Je suis certain qu'ils ne prenaient pas cette gloire pour eux-mêmes. Non, c'était pour Dieu. Ils savaient que Jésus leur avait donné cette puissance, mais ils sont tout contents, tout feu, tout flamme. Continuons! Et qu'est-ce que Jésus fait? Verset 31, Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert. Oula! Dans notre esprit, c'est un peu presque contre-productif parce qu'on dit il faut continuer. Dans cette lancée, ce zèle, tout ce qui est là, il faut continuer. Ne nous arrêtons pas. Aller dans un lieu désert à l'écart, c'est presque comme si on met les freins. Mais Jésus, tu ne veux pas que on atteigne plus de gens. Tu ne veux pas que on ait un plus grand impact. Mais regardez toutes ces villes, tous ces villages autour. On pourrait faire des choses. Mais il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert. Et je ne sais pas vous, mais c'est assez surprenant. C'est presque choquant. Mais en même temps, c'est parce que Jésus savait très bien deux choses. Jésus savait très bien ce dont ses disciples avaient besoin. Et ça, on va voir dans la suite du verset. Et puis, Jésus savait qu'il y avait encore un ministère à accomplir. Et sans ce temps de repos, parce que aller dans ce lieu à l'écart, c'était un temps de repos, comme nous allons voir, mais Jésus savait que ce temps de repos était nécessaire pour le ministère à accomplir par la suite. Et nous voyons dans la suite du verset 31, « Venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu. » Et Marc nous ajoute, « Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Imaginez, ils étaient tellement occupés, et j'imagine, ils étaient tellement dans la joie. Ils se disaient, mais c'est extraordinaire, il y a des miracles. On guérit, on chasse les démons, on enseigne, les gens sont réceptifs. Mais en fait, ils faisaient ça autant que ils pensaient même pas à manger. Ils se sont dit, notre tâche est tellement importante, on ne va même pas manger. Et quelque part, ce serait formidable si on n'avait pas besoin de manger, on pourrait consacrer tout notre temps à l'œuvre de Dieu. Ce serait formidable, n'est-ce pas? Mais bon, la réalité, c'est qu'il faut manger. Il faut nourrir son corps, il faut prendre soin de ce corps que Dieu nous donne. Et Jésus le savait très bien. Et il savait que s'il laissait ses disciples, ses disciples iraient dans l'excès, ils iraient à l'extrême, et ils n'auraient pas la force, ils n'auraient pas ce qui est nécessaire pour accomplir ce que nous voyons dans les versets qui suivent. Et au verset 32, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et ici, Jésus, il s'est équilibré. Jésus ici sait quand il faut travailler, et dans les versets qui suivent, on va voir que effectivement il va annoncer, il se mettre à l'œuvre. Mais aussi, nous savons que, et nous voyons dans ce passage ainsi que dans d'autres, Jésus savait aussi se reposer pour se permettre de mieux faire par la suite, pour permettre à récupérer. Parce que le fait, c'est que parfois nous sommes fatigués. Et Jésus, par moments, était fatigué. Et je ne sais pas si on se rend compte des implications de cela, parce que Jésus, il était Dieu. Et le Dieu tout-puissant, que la Bible, que l'Ancien Testament va dire, ne se lasse jamais, ne se fatigue jamais, qui ne dort pas. Et pourtant Jésus, par moments, il était fatigué. Jésus, par moment, avait soif, avait faim, ressentait des besoins que nous connaissons. Et il savait qu'il fallait prendre le temps, parce que le corps humain, il est limité, de pouvoir récupérer, se reposer, faire le nécessaire pour pouvoir, par la suite, mieux servir le Seigneur. Et du coup, nous voyons l'équilibre ici, le discernement de Jésus-Christ. D'un côté, il y a le zèle, il y a on peut dire l'excès des disciples qui disent « Ouais, allons, on va continuer, Jésus, regardez tout ce qu'on a fait. » Et puis la modération, l'équilibre de Jésus qui dit « C'est formidable. » Et il va les envoyer en mission avec d'autres plus tard. Mais il dit pour le moment, en fait, c'est le repos. Et même si Marc ne le dit pas, lorsque Jésus leur dit « Allons dans un lieu désert, nous reposer un peu », je dois imaginer que les disciples se sont dit « Mais Jésus, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir encore? Pourquoi se reposer? On passe à côté de toutes ces occasions d'atteindre des gens, de pouvoir faire toutes ces choses, de continuer. Et j'arrive facilement à comprendre que les disciples, ils étaient un peu perplexes, mais ils ont suivi Jésus. Et ils se sont reposés. Et à ce moment-là, de se demander, Dieu nous permet de faire un ensemble de choses, de témoigner, d'être à l'œuvre pour lui, même si nous ne faisons pas des miracles, nous encourageons, nous annonçons l'évangile, nous faisons beaucoup de choses pour le Seigneur, et cela est convenable, cela est juste, et il faut en même temps de se poser la question, avons-nous le discernement de Jésus pour dire, maintenant, peut-être je dois me reposer, reprendre des forces pour me permettre de mieux travailler par la suite. D'avoir cet équilibre, parce que même Jésus reconnaît qu'on ne peut pas tout faire. Même Jésus reconnaît que, oui, il y a un moment où il faut se ressourcer. Ici, Jésus dit, il faut prendre ce temps. Et même si les disciples ne comprennent pas, ils vont suivre Jésus. Et dans notre vie, lorsque Dieu nous montre que nous avons besoin effectivement de nous ressourcer, comment est-ce que nous acceptons cela? Est-ce que nous disons oui? D'accord, Seigneur, j'accepte, je ne comprends pas, mais j'accepte. Ou est-ce que nous essayons de faire toujours par nous-mêmes? Est-ce que nous refusons cela? Est-ce que nous nous opposons à ce que Jésus est en train de faire lorsqu'il nous appelle au repos, au ressourcement? Jésus va dire à plusieurs reprises, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je ne vais pas ajouter plus de fardeau, mais je vais vous donner du repos. » Et c'est ce que Jésus voulait faire pour ses disciples ici, c'est ce qu'il veut faire dans notre vie aujourd'hui. Et cela ne sera pas pareil pour tous. Le repos que Dieu va donner à l'un ne sera pas forcément identique au repos qu'il donnera à l'autre. Mais sommes-nous sensibles lorsque Jésus dit « Il faut se ressourcer. Tu es en train de faire par toi-même. » Est-ce que nous sommes sensibles à cela? Parce que si Dieu nous appelle à nous reposer, à nous ressourcer, c'est parce qu'il a encore des choses pour nous à accomplir. Et c'est ce que nous voyons à partir du verset 33. Parce que, ils partent dans un lieu désert, mais verset 33, beaucoup de gens les virent. Ils constatent qu'ils sont partis, s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Donc même si là, ils voulaient et ils ont pris un peu de temps pour se reposer, très vite, là, on voit qu'ils sont de nouveau à l'œuvre. Et verset 34, « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. » Qu'est-ce que j'aime bien de cette expression? « Il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus ici, ému de compassion pour cette foule, alors qu'il sait très bien que la foule, tous dans la foule, n'ont pas des intentions justes. Certains étaient égoïstes. Certains n'étaient pas sincères. Il y avait des gens sincères dans cette foule, mais quand on voit la grande foule, ils étaient des milliers. Oui, il y a des gens qui étaient là peut-être pour tenter Jésus, ou tout simplement pour recevoir ce qu'ils voulaient. Mais ici, Jésus est ému de compassion pour eux. Et parce que Jésus a pris du temps pour se ressourcer auprès de son Père, Jésus, ici, va pouvoir les enseigner. Et Jésus prend le temps et pendant un long moment, il va les enseigner parce qu'au verset 35, l'heure était déjà avancée. Donc, il va passer un long moment à enseigner ces personnes. Il ne se relâchera pas. Parce qu'il s'est ressourcé, il va pouvoir continuer ici. Et c'est là où nous avons le contraste. Parce que ici, Jésus étant ressourcé, il enseigne la foule pendant ce long moment. Et nous voyons que ses disciples arrivent. Et des disciples devant Jésus dire « Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. » Et ce que les disciples disent ici est tout à fait logique. Ça coule de source que ces personnes ont passé tout ce temps avec Jésus et maintenant, qu'ils s'en aillent. Les disciples ne s'étaient pas préparés pour nourrir la foule. Ici, les disciples ne s'attendaient pas à ce que la foule soit là, que la foule reste, et ils disent, bon, ces personnes sont dans le besoin, c'est l'heure du repas, les estomacs commençaient à rogner un peu, même les disciples, j'imagine, commençaient à avoir faim, ils se disent, bon, regardez le soleil, parce qu'ils n'avaient pas de montre, et puis ils se disent, bon, qui s'en aille. Peut-être même les disciples se sont dit, on aimerait faire quelque chose pour cette foule, mais on n'a pas grand-chose, alors tant pis, on aimerait, mais on ne peut pas. On n'a pas ce qu'il faut, alors logique humaine, ces gens doivent partir pour chercher eux-mêmes de quoi se nourrir. Et ils disent, la seule chose à faire, c'est de renvoyer ces personnes. Et parfois, nous sommes comme cela. Comme les disciples, nous examinons des choses uniquement d'un point de vue humain. Parfois, nous sommes devant des situations difficiles, on aimerait tellement aider, mais on se dit, on ne s'est pas préparé, on n'a pas grand-chose, alors qu'est-ce que nous pouvons faire alors que les gens se débrouillent. C'est tant pis pour eux, c'est malheureux, on est triste, on est désolé, même en tant que chrétien, on se dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Petite église, comme nous sommes, quelle différence, quel impact pouvons-nous avoir réellement? Tout récemment, je discutais avec quelqu'un, les évangéliques, dans le sens le plus large du terme, représentent moins de 1% de la population française. De vrais enfants de Dieu, ceux qui ont réellement accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, encore moins que ça. Alors on se dit, mais que pouvons-nous faire? C'est triste. Mais voilà, quel impact pouvons-nous avoir? Toutes les réfugiés qui arrivent en France, un peu partout, ils sont tellement nombreux, ils sont dans le besoin, souvent très légitime, mais ils sont des milliers, et que pouvons-nous faire? C'est triste pour eux, mais que pouvons-nous faire? Quel est notre impact? On ne pourra pas réellement changer grand-chose. Le monde autour de nous, le gouvernement, il fait ce qu'il veut, et puis mon vote, ce que moi je dis, n'a pas vraiment un impact. C'est triste ce qui se passe, mais mon influence est très limitée, alors que puis-je faire? Alors je me tais. Et les disciples ici ont ce raisonnement en disant, on aimerait aider, mais on ne peut pas, on n'a pas ce qu'il faut. Alors, humainement parlant, la seule et logique chose à faire, c'est de renvoyer ces personnes, que ces personnes se débrouillent, on n'a rien à leur offrir. Et malheureusement, même en tant qu'enfant de Dieu, je dois dire que j'ai cette réflexion. Et nous devons reconnaître que, oui, même si ça fait mal, on a cette réflexion comme croix, on n'a rien à offrir, on ne peut rien, alors que les gens se débrouillent, c'est triste, mais on ne va pas au-delà. Et c'est là où nous voyons le contraste entre les disciples et Jésus. Verset 37, Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. Et nous lisons cela et nous savons la suite de l'histoire. Alors, cette phrase ne nous choque pas peut-être autant qu'elle devrait. Les disciples entendent cela. Pierre, Jean, Jacques sont là et Jésus leur dit « Donnez-leur à manger ». Et ils ont dû se dire « Mais Jésus, tu plaisantes. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais tu blagues là. Non, mais Jésus, tu vois pas la foule. Non, mais c'est pas possible. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Et c'est plus ou moins ce qu'ils disent. Mais ils dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers, c'est-à-dire presque deux tiers de l'année de salaire. Donc, vous prenez votre salaire, quel qu'il soit, et puis vous prenez deux tiers de ça. C'est la quantité dont il parlait ici. C'est quand même une quantité énorme si on travaille deux tiers de l'année. Et ils disent, même là, ça ne suffirait pas. Ils disent, mais c'est pas possible. Jésus, c'est presque ridicule que tu le dises. On a quelques pains, on a quelques poissons, juste assez éventuellement pour nous et encore. Et tu nous demandes de nourrir toute cette foule? Non, mais quand même, c'est pas possible. Et n'est-ce pas souvent notre réaction? Nous voyons l'injustice autour de nous. Nous voyons des besoins, qu'ils soient physiques, spirituels, moraux, tout ce qu'on veut. Nous voyons tout ce qui ne va pas autour de nous. Et nous sommes tristes, nous sommes désolés. Mais on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et Jésus qui nous demande d'aider autour de nous, et on se dit, mais c'est pas possible, mais Dieu, ne vois-tu pas tout le malheur autour de moi? Dieu, ne vois-tu pas tous les besoins? Mais ce n'est pas possible que je puisse tout faire. Et même si on avait ceci et cela, ce ne serait même pas suffisant. Et on se dit, mais là, on ne peut rien faire. Il faudrait tellement plus que ce que nous avons, tellement plus de ressources, tellement plus de main-d'œuvre, tellement plus. Et ça, on ne l'a même pas. Et même si on l'avait, ce serait à peine suffisant. Et la réaction des disciples est souvent la nôtre face à l'immensité des besoins qui nous entourent. Et parce que on se focalise sur l'immensité de la chose, on se dit, tant pis. On aurait bien voulu. Si seulement on avait, et là on peut mettre tout ce qu'on veut, là on l'aurait fait. Mais on ne l'a pas, alors dommage, tant pis. Je me souviens, j'ai lu, il y a plusieurs années maintenant, j'ai lu la biographie du missionnaire en Chine, Hudson Taylor. Et puis, alors qu'il était à l'école de médecine, se formait dans la médecine avant d'aller en Chine, il faisait des visites assez régulièrement dans les foyers pour aider, pour évangéliser. Puis un soir, il apprend qu'une famille, il y a une maman qui est sur le point de mourir avec son petit enfant. Donc il va rendre visite, essayer de consoler comme il peut. Il voit que la famille est vraiment dans la misère la plus totale. Ils n'ont presque plus rien. Et le mari l'implore en disant « si tu peux faire quelque chose ». Et Hudson Taylor, il avait une seule pièce qui lui restait de son revenu. Après ça, c'était fini. Il n'avait pas encore reçu sa paye. Et il s'est dit en lui-même « si j'avais simplement deux ou trois pièces, là je leur donnerais une pièce ou voire deux et puis j'en aurais un peu ». Mais bon, j'ai uniquement cette pièce et j'en ai besoin pour le lendemain, pour manger et tout. Et il y a cette lutte interne en lui. Et finalement, en priant avec ces personnes, il prend la décision, je vais donner toute cette pièce. Et il donne la pièce à la famille. Et puis, il dit, en partant, mon cœur était aussi léger que ma poche, mais j'étais dans la joie. Je louais le Seigneur. Il y avait eu cette lutte interne en disant, « Ah, Seigneur, si seulement j'avais ceci, je pourrais les aider. » Et finalement, il a cédé. Il a donné tout ce qui lui restait. Et Dieu a pourvu le lendemain, par la poste, de l'argent est arrivé. Et bien sûr, dans la suite, le Seigneur s'est bien occupé de lui. Mais il a compris. Oui, Dieu nous donne des ressources. Et parfois on se dit, mais ce n'est pas assez, ou ce n'est pas possible, ou qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par la suite? Et à ce moment-là, Jésus dit, mais fais-moi confiance. Jésus dit, obéis tout simplement. Et les disciples ici, au lieu d'avoir la compassion que Jésus avait, parce que souvenons-nous, Jésus voyait cette foule et il a eu compassion. Les disciples les voyaient plus comme un fardeau, quelque chose qui embêtait. Ah mince, si simplement on n'avait pas cette foule, on serait tranquille. Et même si on veut les aider, on n'a pas de quoi le faire. C'est dommage, mais tant pis, que pouvons-nous faire? Et là, Jésus leur pose une deuxième question, après leur avoir dit... de leur donner à manger, verset 38, il pose cette question, combien de pain avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent 5, 2 poissons. Et là, verset 39, nous le savons, il est fait asseoir, par groupe, donc c'est logique, par groupe. Et puis, Jésus prend ses pains, ses poissons, il va prier, comme nous voyons dans le verset 40, 41. Et verset 42, tous mangèrent et furent rassasiés. Et verset 43, l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Un vrai miracle. Alors, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Est-ce que quand ils rompaient le pain... Est-ce que ça revenait à sa place? On ne sait pas dans les détails exactement comment ça s'est passé. Mais le résultat, c'est que tout le monde a mangé. Tout le monde a mangé à satiété. Il n'y avait aucune personne ici qui manquait. Et ce n'était pas comme si chacun recevait juste quelques miettes, un tout petit peu, un petit bout. Non. Tous mangeaient à leur faim. Tous étaient calés, on peut dire. Ils avaient bien mangé et il en restait encore. Et le résultat, c'est qu'à la fin, on avait bien plus que ce avec lequel on a commencé. Ces 5 pains, ces 2 poissons, ont été multipliés pour avoir bien plus que ce qu'il fallait. Ces 12 paniers... qui était plein de morceaux de pain, des poissons. Un miracle de la part de Jésus. Et les disciples, en voyant cela, ils ont dû se dire, nous, pour 200 deniers, l'équivalent de ces 200 jours de travail, 2/3 de l'année pratiquement, nous, on n'aurait pas pu faire autant. Et on n'avait même pas la volonté. Nous, dans notre perspective, le mieux serait de renvoyer ces personnes qu'ils achètent pour eux-mêmes, qu'ils se débrouillent par eux-mêmes, qu'ils nous laissent tranquilles un peu, qu'ils repartent chez eux. Mais là, Jésus, il fait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Non seulement il nourrit ces personnes, mais on a des restes pour nous. Et les disciples, en voyant cela, je dois imaginer, ils se sont dit, mais ce que Jésus fait est tellement mieux. Si on avait renvoyé ces personnes, ils n'auraient pas eu autant. Ces personnes n'auraient pas aussi bien mangé que s'ils étaient rentrés chez eux, acheter leur propre nourriture. Et les disciples n'auraient pas vu Jésus agir, les personnes... qui ont mangé n'auraient pas vu Jésus agir. Ils seraient passés à côté de cette occasion de faire un énorme bien. Parce que Jésus a agi, parce que lui, il s'était ressourcé avant et parce que il avait compassion. Et aujourd'hui, il y a cette même chose dans notre monde. Bien sûr, nous n'accomplissons pas de miracles. Il n'y a pas la multiplication des pains et des poissons comme Jésus a fait. Mais Jésus travaille. Et Jésus nous appelle aussi à être à l'œuvre pour lui. Tout comme avec les apôtres. Oui, il nous donne une mission à accomplir. Il nous demande d'être équilibrés, de nous ressourcer dans sa parole, par la relation avec lui. Mais il nous demande aussi de lui faire confiance et d'agir. Et si nous sommes honnêtes, n'est-il pas vrai que dans notre, pardon, dans notre vie, trop souvent, notre sentiment, c'est « j'aimerais faire mieux, mais, ou j'aimerais faire plus, mais je ne peux pas. » Nous entendons parler de tel ou tel besoin, telle ou telle chose, et on se dit « ah, j'aimerais faire quelque chose, mais ce que moi je pourrais apporter est si peu, ou je suis déjà dans le besoin moi-même, alors que puis-je faire ?» Et à ce moment-là, nous ressemblons aux disciples qui se sont centrés sur eux-mêmes, qui ont dit, avec notre logique, avec notre puissance, avec ce que nous avons, nous ne pouvons rien. Et les disciples ont oublié qu'ils avaient Jésus avec eux. Et parfois, nous aussi, nous oublions que nous avons Jésus. Et que même si nos ressources sont limitées, et elles le sont, même si notre temps est limité, même si nous sommes limités dans l'espace, dans le sens où nous ne pouvons pas être en plusieurs endroits à la fois, du moins pas encore. Peut-être le jour viendra, qui sait jamais. Mais nous sommes limités. Et parfois, je dois le reconnaître, je m'en sers comme excuse. Et si nous sommes honnêtes, à un moment donné, peut-être nous sommes tous passés par cela. Et ces disciples qui montrent leur raisonnement, malheureusement, trop souvent, nous ressemblons aux disciples. Et nous oublions que Jésus est avec nous, est en nous. Et peut-être nous ne saurons pas en avance comment il va pourvoir, comment il va nous utiliser. Mais si nous ne faisons pas un pas de foi, on ne saura jamais. Si les disciples, imaginons-le, avaient refusé de donner les 5 pains, les quelques poissons à Jésus. Déjà, c'est un peu inconcevable, mais faisons l'exercice mental. S'ils avaient refusé de donner ces choses à Jésus, s'ils avaient dit « renvoyons la foule, nous ne pouvons rien », pas de miracle, pas d'enseignement, pas de glorification de Dieu ici. Et même si les disciples n'ont pas tout compris, ils étaient prêts à suivre ce que Jésus leur disait. Et que ce soit aller dans un lieu désert à l'écart pour se reposer, que ce soit de donner de leurs ressources limitées pour que Jésus puisse s'en servir, ils étaient prêts à le faire. Et nous devons être de même. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'inconvertis. L'influence chrétienne, l'influence biblique semble tellement petite, et quelque part elle est. Et on se dit, je me bats tant mal que bien dans ce monde, mais en réalité, quand tout est fait, tout est dit, ce que j'apporte n'est pas grand-chose. Et on manque de foi. Et on oublie que Jésus est en nous si nous sommes enfants de Dieu. Et que par lui, le témoignage que nous apportons, ne serait-ce que quelques mots, peut être quelque chose de puissant. Et la petite aide que nous apportons, aussi petite soit-elle, Dieu peut utiliser cela pour répondre à un besoin spécifiquement à un moment donné, et cela va encourager quelqu'un. Cela va pouvoir relever quelqu'un. Cela va pouvoir même peut-être emmener quelqu'un à l'évangile qui est inconverti. Et nous regardons nos ressources. Et parfois, on a l'impression que c'est vraiment comme les disciples, c'est 5 pains, c'est 2 poissons. Et on se dit, on n'a que ça, que puis-je faire ? Et comme Jésus disait à ses disciples, Dieu nous le dit encore aujourd'hui, mêlez à ma disposition, alors que les hommes vont pouvoir utiliser ces quelques aliments pour nourrir quelques personnes, ces 5 pains, ces 2 poissons, ça allait nourrir 2 voire 3 personnes selon la taille du pain. Alors si c'était les Français, 5 pains, ça nourrit 2 personnes, à peine. Bon. Ces choses allaient nourrir quelques personnes, humainement parlant. Et peut-être nos ressources sont toutes petites, ou peut-être sont dans l'abondance. Peu importe. Dieu nous demande de les mettre à sa disposition. Et de ne pas opposer des excuses. Les disciples ici, ils avaient un ensemble d'excuses. L'heure est avancée, c'est l'heure de manger, la foule est immense, nous sommes dans un lieu désert, on n'a pas beaucoup. Et Jésus dit, ce n'est pas grave, je vais agir. Et Jésus le dit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, on n'est pas beaucoup, enfants de Dieu. Nos ressources sont limitées, notre impact est limité, peut-être dans notre vie familiale. Peut-être on n'a pas beaucoup de ressources, peut-être on est limité dans le temps parce qu'on a d'autres contraintes et on se dit, bon, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Et ce que Dieu demande de chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est tout simplement ce que nous avons, de le lui remettre. Et de s'attendre à ce qu'il fasse des choses incroyables. Nous ne pouvons pas prévoir à l'avance ce que Jésus va faire. Les disciples ici, quand Jésus leur demande d'apporter les cinq pains et les deux poissons, je suis convaincu, ils étaient loin d'imaginer que Jésus allait nourrir toute la foule avec ces aliments. Mais ils les ont apportés. Et parfois, nous essayons de réfléchir à comment est-ce que Dieu va pourvoir, qu'est-ce qu'il va donner, comment est-ce qu'il va intervenir et tout. Et en fait, ça, ce n'est pas notre travail. Ça, c'est le travail de Dieu. Il sait comment il va répondre. Il sait comment il va intervenir. Il sait ce qu'il fait. Notre devoir aujourd'hui, tout comme les disciples, c'est de mettre nos ressources, notre temps, nos talents à la disposition de Dieu. Et qu'il l'utilise pour toucher des milliers de vies, gloire à Dieu. Amen. Qu'il les utilise pour toucher la vie d'une seule personne, gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui l'aurait fait. Et ici, dans cette histoire, ce miracle, il était indiscutable que c'est Jésus qui avait fait cela. Il était indiscutable qu'un miracle s'est produit. Personne ne s'est trompé en disant « Ah, peut-être cela est arrivé d'une autre façon ». Non, tous étaient unanimes pour dire « Jésus a accompli un miracle ici ». Et lorsque nous mettons nos ressources, nos talents, notre temps à la disposition de Dieu et Dieu les utilise, ce sera indiscutable pour tous ceux qui nous entourent et ils vont dire « Oui, c'est Dieu qui l'a fait ». Et nous allons pouvoir dire « ce n'était pas nous ». nos forces étaient insuffisantes, nos ressources étaient insuffisantes, mais Dieu est intervenu. Dieu a travaillé, Dieu a pourvu. Et toute la gloire lui revient. Et chaque jour, nous sommes face à cette décision. Est-ce que nous allons ressembler aux disciples qui manquaient de compassion malheureusement, qui restaient dans cet esprit de « tant pis, c'est dommage, mais on ne peut pas » Ou est-ce que nous allons, comme Jésus, laisser Dieu accomplir son plan parfait, faire des choses extraordinaires que nous ne pouvons même pas imaginer, que nous ne pouvons même pas prévoir? Est-ce que nous allons le laisser travailler? Il peut, il veut dans notre vie aujourd'hui. Mais il faut lui laisser cette place pour le faire. Allons-nous le faire? Il n'y aura peut-être pas des choses aussi extraordinaires que de nourrir 5000 personnes. Mais peut-être on touchera la vie d'une seule personne. Un membre de la famille, collègue de travail, un voisin. Dieu veut se servir de nous. Mais il faut être réceptif à cela. Il faut être humble, il faut être rempli de compassion. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors, le choix est devant nous. Aujourd'hui, demain, quand on va retourner au travail, pendant toute la semaine, on arrive dans la période des fêtes. Les gens, malheureusement, deviennent de plus en plus égoïstes. Ils pensent à eux, qu'est-ce que moi je peux avoir, ce que moi je peux accomplir. En tant qu'enfants de Dieu, distinguons-nous en prenant cette décision de laisser Dieu travailler à travers nous. Mettons tout à sa disposition. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons que tu es un Dieu puissant qui veut travailler à travers nous, qui accomplit encore de grandes choses pour ta gloire. Et Seigneur, nous demandons ton aide pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, d'être remplis de compassion, de pouvoir mettre entre tes mains tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous confies. Et Seigneur, que tu puisses utiliser cela pour ta gloire, que tu enlèves dans notre vie tout obstacle à cela, que tu transformes notre pensée, notre façon de réfléchir, enlève toute excuse, tout ce qui pourrait nous empêcher à te faire confiance. Transforme-nous, Seigneur, et que ce soit évident dans notre vie que tu travailles, que tu as la première place, que c'est ton esprit qui nous soutient. Que tu nous gardes, Seigneur, et que tu nous fasses grandir, que ce soit évident, que tous ceux qui nous entourent voient les bonnes œuvres que tu accomplis en nous, à travers nous, et qu'ils puissent se glorifier dans les cieux, parce que c'est toi qui l'auras fait. Que tout l'honneur te revienne pour cela. En ton nom, nous prions. Amen. Amen.